Bonjour, je suis Pascal.
Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité.
Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
Allez, c'est parti, on est dans le jus.
Imagine, t'as un restaurant qui fonctionne, tout roule à peu près, tu te sens fort. Tu es tenté de multiplier ton concept et de monter une franchise. Imagine, t'as un petit capital, t'as toujours eu envie d'avoir ton restaurant, t'es bon pour opérer une affaire, mais t'es pas certain d'avoir l'idée d'un concept qui tient la route. Tu es tenté d'acheter une franchise. Aujourd'hui, on reçoit un expert reconnu dans ce domaine. Il conseille les réseaux de restaurants pour planifier et accompagner leur croissance. Il nous parle de ses expériences et va, peut-être, te donner le goût de vous lancer dans l'aventure de la franchise. Aujourd'hui, c'est Stéphane qui est dans le jus.
Bonjour Stéphane.
Salut.
Salut Stéphane. Alors
bonjour
salut,
une deuxième fois pour les auditeurs et les auditrices qui ne savent pas. Stéphane, on l'avait déjà fait, mais c'était les frais de notre apprentissage en podcast. On a tout foiré. Donc là, il a pris le temps, il a été généreux, il a pris le temps de revenir avec nous. Merci pour ça.
De rien.
Alors Stéphane, on se connaît un petit peu. Mm-hmm. Nous, est-ce que tu peux nous dire, en fait, la première question après avoir écouté l'introduction d'Aymeric, c'est... est-ce qu'aujourd'hui, après la pandémie, après un état un peu d'interrogation générale sur la profession...
Toujours un état d'interrogation.
Ouais, toujours. Toujours,
on est toujours un
état d'interrogation. Ah ouais, encore, ouais, avec les prix qu'on ne sait pas si on doit
l'annoncer
ou pas, et toutes les compagnies. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter une franchise ou de développer une franchise?
Ben, je pense qu'il faut le regarder d'une façon un petit peu plus avec du recul. Si tu décides de devenir franchiseur, OK, puis je vais refaire le pas là de si tu es entrepreneur, tu veux prendre l'expansion de ton entreprise et tout ça, c'est sûr que si tu regardes le contexte aujourd'hui, tu dis aïe aïe aïe, faire de la croissance aujourd'hui, pas certain. Je vais plutôt tenter de sauver les meubles, tout ça, puis on verra. Okay? Moi, la leçon d'histoire, c'est les on verra, c'est ça arrive jamais. Okay? Et combien d'entrepreneurs ont des beaux concepts qui par une situation économique plus ou moins incertaine, vivre des difficultés là, qui peuvent être plus ou moins importantes. Moi, ça fait longtemps que je suis en franchise, puis j'en ai vu au moins deux récessions, une crise financière, puis là, c'est un autre genre de récession qui n'est pas tout à fait, mais que c'est à peu près. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que si tu attends que tout soit parfait, tu ne le feras jamais. Un projet de devenir franchiseur, de toute façon, ce n'est pas automatique. Donc, c'est, honnêtement, là, ça peut prendre entre 6 à 12 mois, dépendant là, avec quel genre d'effort que tu veux mettre et puis quel genre d'équipe qui t'accompagne et tout ça. Donc, devenir franchiseur, ça ne sera pas pour demain matin, ça va être pour après-demain. Donc, dans le contexte aujourd'hui, si tu veux prendre la croissance, si tu regardes en avant, il y a sûrement que la franchise peut être une option. Par contre, puis là, je mets « par contre », il faut vraiment être conscient que le concept de l'avenir en restauration, lorsqu'on fait une chaîne, lorsqu'on fait un réseau, bon, on sort du monde de l'indépendant, on s'entend, on sort du monde de l'improvisation, on sort du monde de aujourd'hui, on va changer le menu parce qu'on a quelque chose, on a une opportunité d'un fournisseur, puis zap. On s'éloigne de ça de façon importante, naturellement. Et il faut créer un concept qui est plus performant que ton concept actuel. Sinon, je veux dire, tu vas répliquer les mêmes problèmes que tu vas avoir un peu partout.
Ça va mettre même un micro, une loupe sur tous tes problèmes, comme la crise l'a été un petit peu.
Ouais.
C'est exponentiel, en fait, un peu ton nombre de problèmes.
Puis il faut regarder ça comme dans un contexte comme franchiseur. Là, quand on regarde comme franchiseur, il faut dire l'important dans une relation franchiseur-franchisé, c'est deux facteurs. Le facteur économique puis le facteur humain. Dans le facteur économique, c'est évident que le retour sur capital investi et toute cette notion-là est omniprésente en franchise. Quand tu es en franchise, tu n'es pas nécessairement un artiste. Tu deviens un designer artistique, si tu veux, mais tu fais du design. Donc, tu ne crées pas à tous les jours quelque chose de nouveau, tu répètes une formule à succès. Donc, quand on travaille ça, et cette formule à succès d'aujourd'hui, si je regarde la plupart des restaurants qui n'ont pas faites le saut vers la technologie, l'amélioration de tout ça et qui pensent prendre l'expansion avec leur concept, bien, il faut se poser fondamentalement la question, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit plus simple, plus efficace, moins dispendieux à bâtir ou à construire et, de façon générale, plus facile à opérer. Donc, souvent, ce qu'on rencontre chez les gens qui veulent démarrer en franchise, aujourd'hui, ce qui était moins présent avant, je peux l'avouer, là, avant pandémie, beaucoup de variables qui étaient un petit peu moins importantes. Mais aujourd'hui, si je regarde les clients que je conseille en restauration, on restructure tous les concepts. Parce que les concepts d'aujourd'hui, il faut qu'ils soient hyper performants. Puis le concept que tu as aujourd'hui ou les deux ou trois succursales que tu as, tu sais qu'elles ne sont pas aussi performantes qu'elles devraient.
Donc, quand tu dis restructurer, c'est que tu arrives chez le client et là tu dis, OK, avant de commencer on va croître et on va optimiser tout ton système. Ça, c'est avant de commencer le principe même de la franchise.
J'ai eu un vieux patron qui me disait, Stéphane, si ta maison n'est pas propre, tu n'invites personne. Alors, dans le contexte, là, je l'ai fait beau, là, l'exemple, parce que lui, c'était plutôt autre chose. Mais, mais disons que le point, c'est aujourd'hui, en restauration, on n'a pas le choix, si on veut réussir, d'intégrer la technologie le plus possible, de simplifier l'offre. Il faut simplifier le menu, optimiser la profitabilité, puis développer des concepts qui sont moins dispendieux à bâtir dans le contexte que si on veut faire de la croissance. Et là, ça amène le deuxième volet de la question. Si je suis franchisé, puis je veux démarrer une franchise, donc je vais acquérir une franchise, tu remarqueras que je ne dirai jamais le mot « vendre ». Pour moi, vendre, c'est comme un produit ou tu vends un immeuble, tu vends une bâtisse, mais la franchise, dans le fond, les gens acquièrent une franchise et achètent les meubles et les équipements. Donc, cette franchise-là, si elle n'a pas fait cette réflexion-là, si le concept qu'elle propose n'est pas aux normes d'aujourd'hui, ben, pour le franchiseur, ça va être un échec, il n'y aura jamais personne.
Est-ce que tu peux donner un exemple de restructuration de concept dont tu parlais, donc simplifier, par exemple, concrètement, c'est quoi?
Simplifier, c'est utiliser toutes les technologies qu'on peut mettre en restauration. Tu sais, aujourd'hui, l'équipement en cuisine a changé beaucoup. Donc, si on fait de la cuisine élaborée, il faut être sur les derniers équipements et non pas sur l'équipement que historiquement tu as utilisé, tout est beau, parce que ce dernier équipement-là, il va être plus productif, plus facile à opérer, etc. L'autre chose qu'on regarde aussi, c'est toute l'espèce de logiciel de gestion, les systèmes de gestion pour gérer ton food cost, ton labor, tes affaires-là. Il faut sortir de l'artisanat. Il faut que ce soit structuré, tout organisé. Au niveau de l'acquisition clientèle aussi, à cause qu'il y a beaucoup de livraisons. Puis aujourd'hui, là, même si c'est un concept de restaurant service aux tables, il faut que tu aies une dimension livraison dans ton concept parce que les gens vont apprécier ta marque, mais souvent, ils vont le commander pour la maison. Donc, il faut être prêt à recevoir ça. Il faut intégrer ça dans le concept. Il faut intégrer tout le modus operandi, qu'on dit, là, tout l'opérationnel de ça, pour qu'au niveau de ton service, ton expérience client, ce soit optimisé. Tu sais, je vais donner un exemple qui est, j'ai une cliente là, qu'on a là, actuellement, je ne pourrais pas la nommer parce que je n'ai pas demandé la permission, mais on a actuellement 24 unités. Et eux, la livraison a pris beaucoup de place. Avec le modèle livraison a pris beaucoup, beaucoup de place. Et le questionnement qu'on se pose actuellement, c'est comment on peut faire vivre l'expérience restaurant en livraison. Donc, ce n'est pas des questions qu'on se posait avant. T'sais. Donc, on est en train de développer le packaging, le concept livraison pour faire vivre l'expérience du restaurant en livraison. Donc, on n'était pas là avant. T'sais, là, il faut aller jusque-là. Donc, il y a des aspects techno là-dedans, il y a des aspects design, il y a des aspects commerciaux. Là,
ça prend beaucoup plus de temps aujourd'hui pour aller sur le marché du franchiseur que ça le prenait avant, en fait.
Il y a beaucoup moins d'improvisation parce que la marge est mince. T'sais. Puis, on le voit là, c'est pas juste une question de frais financiers, tout ça, c'est qu'il faut être réaliste. Le franchisé est là, acquiert la franchise parce qu'il te fait confiance. Il va mettre souvent toutes ses économies dans un projet de franchise avec toi comme franchiseur, il ne peut pas attendre 5, 7 ans, 10 ans avant de rentrer dans son argent. Toi, comme entrepreneur, quand tu as fait ton restaurant ou tes restaurants, c'était ta passion, c'était ton influx, c'était ci, c'était ça. Ça prenait 5 ans ou 7 ans ou 10 ans. C'était pas grave parce que tu bâtis ça tous les jours. L'autre acquiert un savoir-faire que tu es supposé d'avoir pour rapidement récupérer, réduire son risque aussi, parce qu'il vient en franchise, parce qu'il dit « ta formule, elle fonctionne, donc mon risque devrait être diminué ». Donc, il fait un acte de foi, c'est essentiellement ça, met son capital, s'endette, signe un bail, etc., etc., bon, tout ça. Et son espoir, c'est qu'il va rapidement faire son argent, récupérer son argent, donc diminuer son risque, puis bien en vivre après, ou faire, en tout cas, ça dépend des concepts, là, ça peut aller jusqu'à des méga-profits, là, mais l'intérêt est plus de s'assurer que le concept est hyper rentable.
Quand tu dis hyper rentable, c'est combien de temps?
Si on regarde, là, il y a deux parties dans l'investissement. Il y a la partie cash qu'on a besoin et la partie investissement total. Normalement, le cash, on veut le voir revenir en deçà de 3 ans.
Ah oui, c'est rapide. Donc,
ouais, c'est ça qu'on n'avait pas avant.
Ah oui?
Ouais, avant, la pression sur la rapidité était moins forte. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, si tu mets, c'est un restaurant qui vaut, mettons, 600 000, aujourd'hui, c'est rien, là. Je regarde mes clients, là, ça va vite. Donc, si on fait 600 à 700 000, ça va avoir besoin d'un 200 à 250 000 cash. Okay? Ce qu'on veut, c'est dans 3 ans, le 250 000 est revenu et le restaurant devrait être payé au maximum 6 ans, 7 ans. Donc, c'est le pire max. Sinon, c'est 5 ans.
Rapide. Parce qu'avant, il faut dire, c'était quoi, 13 ans?
Non, c'était 10 ans. Souvent, 10 ans. On veut référer en franchise. Là, on référait sur 10 ans.
OK, d'accord.
On se disait, bon, OK, on va financer ça sur 7 ans, le cash, tu récupères ton cash en 3 et 5 ans, puis tu vas payer ton restaurant. Donc, au renouvellement de la franchise, à part les rénovations, puis tout ça, tu vas être cash free. Tu sais, c'était ça le modèle. Pour le modèle qu'on appelle owner-operator. Tu sais, donc, celui qui veut opérer son restaurant ou peu importe. Donc, ça, c'est une chose. Donc, la finance est devenue un élément important dans l'équation. Donc, quand j'analyse un concept de restaurant, première affaire que je regarde, malheureusement, c'est pas la beauté, puis l'offre, puis le menu, ça, c'est let's talk money. Faut parler d'argent, faut regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce que ça produit, puis tout ça. Et souvent, les gens qui viennent me voir, qui me consultent, bien, la réponse, c'est t'es pas prêt. Parce que t'es pas assez profitable pour faire une franchise. Ton concept est passé date, ton marketing est passé date, ton branding est passé date. Tout ça, ça a changé à une vitesse hyper rapide.
Bon, tu dis souvent, mais j'ai l'impression que c'est très souvent, parce qu'il y a beaucoup de commissions quand même.
Ouais.
Et là, tu les accompagnes un petit moment jusqu'à ce que vous commenciez tu leur donnes des
guidelines. Ouais, ben on a deux. Dans le fond, ce qu'il n'y avait pas avant la pandémie, que maintenant j'ai mis en place, c'est ce qu'on appelle un programme, je vais le dire, de préparation. Okay? C'est souvent un an, parce qu'il y a plein de trucs à faire, si ça. Donc, on fait un diagnostic, une analyse complète du concept. On identifie comment on appelle ça, les gaps, là, les écarts. Ouais. Les écarts. On identifie les écarts, puis là, on dit, OK, c'est quoi la solution pour ces écarts-là? Et là, il faut ou les implanter ou les designer dans le nouveau concept. Alors, si dans ton concept actuel, on ne peut pas réduire les écarts, ça veut dire qu'il faut que tu proposes au marché un nouveau concept. Nouvelle étape dans ça. Avant, tu es moins obligé. Aujourd'hui, ça peut-être dire, garde, si tu veux proposer puis prendre l'expansion de façon réussie, tu vas être obligé de développer toi-même un nouveau concept. Donc, ce nouveau concept-là va être ce que tu vas faire grandir, faire croire. Alors, ça, c'est plus compliqué qu'avant.
Et donc, est-ce que c'est souvent que tu constates que soit le franchiseur n'est pas prêt ou ne sera pas capable, ou tout simplement le concept n'est pas suffisamment adaptable pour avoir une franchise, est-ce que c'est souvent?
Ben, sur 10, il y a probablement. Avant, il y avait peut-être 5 qui c'était possible. Aujourd'hui, il y en a 2, 3. Donc, devenir franchiseur en restauration, là, c'est devenu un exercice beaucoup plus sérieux qu'avant, si on veut réussir. Après ça, il y a les improvisateurs, ce que j'appelle les promoteurs. Tu sais, c'est OK, on va vendre ça vite, on va vendre ça à MTY, on va vendre ça à tous les groupes, puis ça va faire de l'argent. J'en connais une tonne, moi, qui sont morts au combat. À cause
on en
de
connaît
ça.
Aussi, hein?
Ouais. Ouais. Les MTY et compagnie, ils ont le même discours que toi, quoi. Ils vont voir ça arriver.
Non, les variables ont changé. Les variables, ils ont regardé le concept, puis ils vont dire, OK, ça va passer notre équation ou ça ne passera pas. Donc, le rêve de dire, je vais bâtir ça vite, puis je vais vendre ça à des MTY de ce monde, puis des food statiques de ce monde, c'est un rêve érotique, là.
MTY et Foodtastic, il faut juste le dire, c'est des grands groupes de restauration
qui ont des multi-chaînes et qui font des. Eux, ce n'est pas des développeurs de concepts, ils font de l'acquisition de concepts existants.
Ils achètent une fois qu'il y a 20 franchises.
15, 20, 25. Maintenant, on est rendu, c'est en bas de 50 millions de ventes au détail, les groupes ne regardent plus.
Millions.
Il faut des succursales pour faire 50 millions.
Il nous faut des burgers pour faire 50 millions.
Oui, ils sont rendus là. Donc, c'est ce qu'ils font actuellement. Ils achètent des franchiseur déjà rendu là. Donc c'est ça, le modèle a beaucoup évolué depuis les dernières années.
C'est pas eux qui vont faire développer le ils vont pas le faire développer.
Ils vont investir dedans.
Ils vont investir une fois qu'il est développé, ouais, et facilement développable.
Et après ça, eux ont des machines de croissance.
Une fois que tu as trouvé ton équation parfaite, ouais, eux, ils vont te racheter l'équation, ouais, et puis la blinder partout, au Canada, aux États-Unis.
Ouais, ils décident et puis ils font ce qu'ils veulent. Okay. Donc, ils ont beaucoup de moyens par rapport à des indépendants ou ça.
Quand tu vas voir quelqu'un qui veut être franchisé, là, tu lui dis, au début, tu nous dis, il y en a pour 6 mois, 1 an. En fait, pour 1 an de préparation avant de commencer à la franchise, la plupart du temps.
Ben, c'est parce que...
C'est normal.
Oui, ben c'est normal. Cette étape-là, on la prend... Le 6 mois, c'est quand tout est bien monté, parce qu'il y a des gens qui sont déjà... qui ont préparé des choses, qui sont vraiment en avance. Souvent, c'est des concepts un peu plus récents. Donc, les aspects technologie, l'aspect ergonomie, l'aspect ci, l'aspect ça, a été beaucoup plus développé qu'avant. Okay? Donc, quand je prends quelqu'un qui a un concept... plus vieux, là, tout ça, et qui n'a pas fait cette démarche-là, on est obligé de le faire. Sinon, c'est une... En tout cas, professionnellement, je ne serais pas en mesure de dire tu vas réussir si tu prends ton vieux concept et tu penses qu'il va être bon pour l'avenir.
Il y a encore des gens avec des vieux concepts qui pensent qu'ils peuvent franchiser,
ouais,
malgré le fait qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter à la réalité du marché, ouais, à la réalité,
ouais,
de...
Oui, parce que c'est un peu malheureux, mais en franchise, on joue avec l'argent des autres. Alors, des fois, l'appât du gain, il peut être... C'est un peu un miroir aux alouettes, cette histoire-là. C'est-à-dire, la vraie vie, c'est que peut-être tu vas réussir à aller chercher 2-3 jambons qui vont te signer une franchise, mais ces gens-là, tu fais pas un étalon avec un âne. Hein? Alors, si c'est pas les bonnes personnes, si ton concept est pas bon aussi, ça, à un moment donné, ça va tout tourner à l'envers, ça. Tout ça, ça va te revenir comme un boomerang. Puis ça fait mal quand ça revient.
C'est quoi les concepts de l'avenir? Donc, tu nous as parlé de la livraison à domicile, ça c'est certain.
Ouais.
Les autres concepts?
Je pense que la restauration service aux tables a un gros challenge actuellement. Je ne suis pas sûr que la franchise est assez... Disons que l'opportunité est plus limitée avec le service aux tables. Le capital coûte plus cher, le financement, ça coûte plus cher. T'sais, je regarde les plus gros franchiseurs aujourd'hui et eux ont aussi beaucoup de difficultés à développer à cause de l'élément financier et à cause de l'élément consommateur. On est dans une période où le consommateur va plutôt chercher à... va aller au restaurant, où il veut du restaurant socialement, etc. Mais il n'aura pas dépensé 250 $ dans une soirée à 4 parce qu'il ne l'a plus. Si ce n'est pas les impôts qui nous mangent, c'est le contexte ou c'est l'incertitude. Donc, cette période-là va être difficile pour le restaurant.
En tout cas, il n'ira pas chez un franchisé dépenser ces 250 $, mais il ira vivre une expérience unique.
C'est ça. S'il peut, et c'est là le secteur, c'est, je pense, le secteur pour les prochaines années, le secteur du service rapide, le quick service, pas le fast-food nécessairement, mais le quick service, va être beaucoup plus en le fast casual, le quick service. Ces formules plus légères-là vont être beaucoup en demande. La formule service aux tables, je pense qu'il va falloir qu'il y ait d'autres critères qui se passent. Puis probablement, ça va être une épuration, malheureusement, ça va être une épuration des plus faibles qui va ramener un peu le volume de ça dans un contexte où on est capable. Puis ça, je parle du Québec, là, ailleurs, c'est d'autres réalités.
Je vois beaucoup de gros locaux vides,
oui,
des grosses chaînes,
hein, oui,
mais les voitures de livraison, oui, donc les gros sont encore pris avec de gros baux.
Et
ça va changer.
Ils souffrent. Pour ne pas parler d'une chaîne qu'on connaît bien, qui était dominante dans le poulet au Québec, si je pose la question au président aujourd'hui, il dit « je coupe mes gros restaurants en deux et je suis très heureux ».
C'est quand même fou.
C'est fou. Hein? Et 2019, c'était « non, il faut agrandir ».
Oui.
Il y a des chaînes comme Pacini qui ont eu beaucoup de difficultés avec la pandémie. C'est leur nouveau concept. Il est à peine 60 % de l'ancien, si ce n'est pas 50 %. Donc, les restaurants service aux tables, bon, ils proposent une expérience service aux tables, mais beaucoup moins grosse, si on veut, contextuellement, puis mis sur la livraison.
Et est-ce que le service type Ghost Kitchen, donc pas du tout le service aux tables, mais vraiment que du service de livraison, ça a quand même un avenir ou c'est comme plus difficile de se faire une image de marque sans physique?
Ce qu'on voit actuellement, le Ghost Kitchen, ça a été juste une mode.
Ouais.
Je pense que on arrive à l'étape où le consommateur a besoin de sécurité. de voir l'enseigne sur sa rue du restaurant, un pied, il y a du monde, c'est un vrai local, c'est une vraie ci, vrai ça, c'est une valeur sûre. Donc, ma sécurité, quand je commande, je sais exactement d'où ça vient, qu'est-ce que ça vient, etc. Ghost Kitchen, ça implique plus une notion. Pour le segment plus jeune de population, c'est un petit peu moins important, ça. Parce qu'eux autres sont sur toutes les applications et tout. Donc, pour eux, la notion, c'est plus qu'est-ce que j'ai et la valeur que j'ai.
Donc, on est dans une transition, encore une fois, là?
C'est parce que, personnellement, je pense pas que la Ghost Kitchen a un avenir extraordinaire.
OK, c'est difficilement franchisable, une Ghost Kitchen? Il faut du travail de marketing, en tout cas.
C'est hyper marketing. Puis on pense que, je regarde un peu dans un autre contexte, là, pour faire un parallèle. Mon épouse est dans une autre genre d'industrie et pour ses ventes en ligne, elle dépense entre 15 et 20 % du montant de ses ventes pour le marketing, la pub, etc. etc. Mm. Quand on applique cette équation-là à un Ghost Kitchen, on s'aperçoit bien qu'il faut être dans un édifice ou loin de la ville pour ne pas payer des loyers trop chers et tout. Là, tu as des difficultés de recrutement personnel parce que tu es loin. Tes livreurs ne veulent peut-être pas venir non plus. C'est trop loin, c'est trop aussitôt ça. Donc, tu es pris à t'approcher des grands centres quand même et t'approcher des zones de consommation. L'autre chose, c'est que c'est beau marketer une marque, mais un Ghost Kitchen, sans marque, tu dois avoir un portefeuille de marque. T'sais, donc, il faut que tu sois capable d'avoir les plus populaires et puis tu as développé un brand alentour des plus populaires et il faut que tu investisses en marketing, mais comme en fou, là. Donc, les plateformes de livraison, tu vas dépenser beaucoup. Puis, si on regarde l'équation, 20 % de marketing, entre 25 à 30 % de coûts de livraison, ton personnel, ton loyer, tes équipements, ton financement, si ça, blablabla, pas sûr, moi, qu'il en reste beaucoup. Est-ce que c'est franchisable? S'il n'y a pas de marge, oublie ça.
S'il n'y a pas une grosse marge, oublie ça, parce qu'on s'appelle rentrer dans ton cash dans les 3 ans.
C'est ça le truc caché.
Donc, ça prend de la marge. Fait que, tu sais, si tu joues à des 2 % net puis des 5 % avant impôt, oublie ça. C'est pour ça que les gros vont avoir de la difficulté parce que leur rentabilité est beaucoup plus loin. Tu sais, le modèle du poulet dominant au Québec, tu sais, la rentabilité, il y a pas si longtemps, c'était 6 ans. Cash in, cash out, tout complet. ROI, 100 % sur 6 ans. Là, aujourd'hui, la pression n'est pas 6 ans. Là. Hey, on veut rentrer dans notre argent dans 3-4 ans. Donc, c'est sûr que c'est différent, là. Fait que ça, on ne peut pas négliger ce facteur-là.
Rentrer dans ton cash dans les 3 ans, 3-4 ans, c'est combien ton ROI que ça prend?
Bien, si on regarde un peu, ça dépend des concepts, honnêtement. Mm-hmm. Là, mais si, exemple, tu mets 200 000 de cash, divise par 3, ton ROI minimum, ton profit, puis ça, c'est ton profit après impôt, là. Faut 200 000 divisé par 3.
C'est ça.
T'sais, donc, on ne joue pas après impôt, frais financiers et tout, là.
Et 200 000, il faut en engranger des ventes en restauration.
Ouais, c'est ça. Tu sais, maintenant, là, un concept service rapide, 1 million de ventes, c'est le minimum. En bas de ça, les gens ne font pas d'argent. Alors, tous les petits concepts de service rapide là, qu'on voit, là, s'ils ne font pas 1 million, ces gens-là, c'est des esclaves économiques du franchiseur, malheureusement, là, parce que les franchisés font pas assez d'argent pour tout couvrir et rentrer dans leur argent. Fait que là, aujourd'hui, c'est 1 million, ça, c'est à Montréal. Un peu dans les régions, on peut aller à 800 000. Ça, c'est les ventes annuelles. Ça, c'est juste le service aux tables. Pour le service rapide, là, je ne parle pas de fast-food. Des fois, les investissements sont différents. Le service aux tables, on s'entend, là. On ne bâtit plus des restaurants pour 1 million, là. T'sais, ça coûte, tu fais un restaurant qui a un peu d'allure, tu es à 750, 800 000 minimum. Puis, il faut que tu fasses minimum 2 millions, 3 millions de ventes pour essayer d'avoir de la profitabilité. Puis, moi, je pense que c'est 3 le chiffre magique. En bas de ça, tu tournes en rond. Il ne faut pas oublier que le franchiseur prend une portion aussi de cette marge-là.
Il prend combien à peu près?
Bien, en restauration, service aux tables, on tourne à l'entour du 4 %
plus les frais de publicité.
Les frais de franchise, le frais de redevance, c'est 4 % Les publicités, ça peut être 3-4 % Tu vas avoir aussi d'autres frais. Fait que calcule 10 % pour l'exercice.
Est-ce que tu peux expliquer ça un tout petit peu plus en détail?
Normalement, il y a la phase investissement puis il y a la phase opération. Opération. Donc, la phase d'investissement en franchise, ça fonctionne de la façon suivante. Le franchisé acquiert la franchise via le droit d'entrée. Le droit d'entrée, c'est un montant qu'on paye une fois. Il acquiert le droit d'utiliser la marque et le concept pour une période donnée, donc 10 ans ou peu importe la durée. C'est un droit qui lui est exclusif à lui et au local.
OK, et on s'entend, le resto est à lui.
Oui, le resto est à lui. Donc, après ça, il va investir pour les équipements, l'amélioration locative, tout ça. Donc, ça fait qu'au bout de la ligne, tu as une équation de ça vaut 600-700 millions, 1 million.
Et c'est le franchisé qui acquiert l'équipement. Ce n'est pas le franchiseur qui le loue.
Non. Ça, c'est acquiert l'équipement via des prêts, via ci, via ça.
Il passe à partir du franchiseur pour acheter les équipements.
Non, pas forcément. Ça, c'est pas forcément ça.
S'il finit ça.
Non, c'est pas nécessairement fini, mais si c'est un équipement qui a été développé par le franchiseur, oui. Sinon, ce n'est pas tous les franchiseurs qui font ça. C'est une autre responsabilité au niveau de la franchise. Une fois qu'il est ouvert, qu'est-ce qu'il doit payer? Parce que comme franchisé, il paie quelques trucs. Il va payer des redevances sur ses ventes, pas sur ses profits. Il va payer des frais de publicité nationale, qu'on appelle. Donc, c'est un fonds coop.
Donc, fixe, ça, chaque
mois. Ça, c'est à pourcentage des ventes.
Pourcentage des ventes aussi.
Oui, okay. Un pourcentage des ventes. Et aussi, certains franchiseurs vont avoir certains frais du genre technologie, des trucs là plus détaillés. Donc, on peut s'attendre à un franchisé dans la restauration, service aux tables, va probablement payer dépendant de la profitabilité puis du modèle puis de comment le franchiseur est intégré, là, entre 6 et 10 % de ses ventes vont aller au franchiseur et au fonds de publicité. Donc, une portion qui lui revient, ce n'est pas l'argent du franchiseur, le fonds de publicité. Pour le service plus rapide, bien là, on a facilement des 5-6 % de redevances, 3-4 % de publicité et quelques autres frais. Pour être profitable, un franchisé, il faut qu'il y ait un concept qui, au départ, est déjà monté pour être très profitable.
C'est ça, que tu dois être capable d'absorber ces 6-7 %
plus la pub. Ben, de toute façon, tu en mettrais de la pub. Fait que c'est un peu la pub, ça. C'est le 6-7 % qui vient
plus
typiquement
enlever ton profit. Quoi,
c'est ça, enlever du profit. Donc, si le modèle qu'on te propose comme franchiseur est marginalement profitable, tu perds ton temps comme franchisé. Et ça, de plus en plus, à part les jambons et les ânes, les gens sont conscients de ça. Et ce que j'espère, c'est qu'ils vont être encore plus conscients parce que les franchiseurs sont pas assez rigoureux.
Est-ce qu'il en reste encore des jambons et des ânes?
Oui, malheureusement, oui. Ça, c'est les gens qui rêvent à partir de leur entreprise ou qui ne font pas leur devoir. Puis, il y en a trop qui ne font pas leur devoir. Et pourtant, les franchiseurs, oui, il y en a qui sont un peu, je les appelle mes promoteurs, là, sont pressés, mais la plupart des franchiseurs vont travailler sur un processus plus ou moins élaboré de qualification, de sélection, tout, pour ne pas travailler pour rien. T'sais? Puis, rien de pire pour un franchiseur de recommencer. T'sais, un franchisé là, qui est obligé de remettre les clés, dites-vous que pour le franchiseur, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'on recommence.
Puis ça donne une mauvaise image.
En plus, ça donne une mauvaise image. Et ça peut aussi détruire l'aspect croissance. Parce que tu travailles, tu sais, la franchise, c'est une stratégie de croissance rapide. Quand le franchiseur ne croit pas assez rapidement, moi, je regarde la question, puis je me dis, la réponse, elle est les franchises actuelles, ou ce n'est pas les bons franchisés, ou ils font pas assez d'argent, donc c'est difficile à vendre. Donc, c'est difficile à mettre en marché. Donc, les gens y croient moins. Donc, c'est ça. Donc, si on a une franchise qui grossit rapidement, on peut se poser la question. Après ça, là, c'est-tu trop ou pas? Là, ça, c'est plus mon avis à moi.
Et ils ne sont pas suivis, ces jambons-là?
Oui, mais ils sont suivis, mais tu peux pas faire. Avec un an, tu peux pas faire un étalon.
Ah oui.
Alors, tu sais, si tu as quelqu'un qui, malheureusement, ne comprend pas le business, parce que des fois, les franchiseurs sont très bons à expliquer la technique, mais ne comprennent pas. Tu sais, les gens ne savent pas manager une équipe. Savent pas développer le marché local, ne savent pas se présenter dans un tu sais, peu importe une assemblée, et tout ça, bonjour, je suis le franchisé, ils ne savent même pas ça. Ils ne parlent pas la langue, ils n'ont pas la culture, peu importe, parce que la franchise, on a beaucoup d'immigration, mais le franchiseur a un devoir aussi, c'est de s'assurer que, peu importe qui vienne de, peu importe le pays, t'es au Québec ici, là, t'es plus dans ton pays. Tu ne peux pas avoir le même genre de management que tu avais dans ton pays avec tes employés. Ce n'est pas la même culture, les lois, les règlements, les trucs, les si, c'est complètement différent. Alors, si ces gens-là, malheureusement, ça peut être des extraordinaires personnes, j'en ai connu, puis il y en a qui ont eu beaucoup de succès que j'ai connu, des franchisés, puis j'en connais encore, il faut qu'ils soient quelque part accompagnés intelligemment là-dedans. Il faut leur laisser le temps de comprendre aussi. Fait que souvent, on va trop vite. Fait que ça, c'est pas des gens bons, c'est des gens malheureusement mal qualifiés. Okay? Les gens bons, c'est ceux qui arrivent, qui ont du cash, puis ils disent « Ah, moi, là, je le connais. Moi, mettre ça là, puis tout va bien aller. »
C'est ma retraite.
Oui, c'est ça. Et ils font juste la prendre un peu trop d'avance. Alors, ça, c'est mes jambons ou mes ânes. Ça, c'est les gens qui, malheureusement, ont ce qu'il faut pour rentrer, mais n'ont pas ce qu'il faut pour continuer. Alors, quand on fait ça, le franchiseur fait une erreur fondamentale. Il dit, ah oui, c'est comme un peu comme, je vais prendre un autre exemple, Quand tu rouvres une nouvelle franchise, il dit, c'est un peu comme faire pipi dans ses culottes. Là, je le reste quoi. Ah, il fait chaud, on est bien, on est bon là-dedans. Mais souviens-toi que si ce n'est pas le bon franchisé, le vent va revenir, puis ça va être froid, puis tu ne seras pas à l'aise, puis tu vas trouver ça dur.
T'as toujours des vieux patrons avec des images parfaites, là.
Oui, ben c'est bon. Je suis pas nécessairement celui qui est politically correct. Alors, donc dans ce contexte-là, c'est ça. Puis j'utilise souvent cette image-là quand les gens disent « Ah ouais, regarde, il va être bon. T'es sûr qu'il va être bon? » Alors, on fait des… Tu sais, donc, tous ces gens-là, il faut les éliminer. Malheureusement, les franchisseurs ont tendance à regarder beaucoup l'aspect économique pour des raisons à court terme qui, malheureusement, vont les amener à avoir des problèmes très rapidement après l'ouverture.
Ça me rappelle un peu du recrutement de gestionnaires.
Ben oui.
C'est un peu le même principe.
C'est toujours le même principe. La restauration, toutes les franchises, dans peu importe les domaines, le succès, c'est le franchisé qui l'a dans ses mains. Mmh. C'est pas le franchiseur. Le franchiseur, son rôle, c'est de tout faire pour s'assurer que le franchisé a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais il n'est pas responsable de la réussite du franchisé. Donc, c'est le franchisé qui doit réussir. Par contre, si le franchiseur fait l'erreur initiale de mettre un jambon, ben il n'y aura pas ce qu'il faut pour réussir. Puis ça, c'est malheureusement en franchise, on a une catégorie de gens là-dedans que j'appelle mes promoteurs, qui sont plutôt à recherche de gains à court terme, avec le mirage de dire que je vais en faire pas mal, puis tu vas avoir un moment de ça.
Est-ce qu'il y en a encore quelques-uns sur le marché, mais il y en a beaucoup moins qu'avant, quand même, les promoteurs?
Oui, parce que, bon, il faut quand même le dire, là, les gens sont un peu plus éduqués, ils regardent différemment, tout. Mais il y en a quand même. Puis, c'est pas. Puis, tu sais, il y a des excellents franchiseurs qui vont faire des erreurs, mais normalement, une erreur en franchise, c'est 50-50 le problème. C'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait ses devoirs de la bonne façon. Souvent, c'est le franchiseur peut avoir ses responsabilités. Mais aussi, tu as le franchisé. Est-ce qu'il a opéré de la bonne façon? Puis souvent, il y a une responsabilité là. Mais quand tu vois des franchises où les gens… ça, c'est une très bonne question qu'un franchisé peut poser à un franchiseur. C'est dans les trois dernières années, quelles sont les franchises qui ont été fermées ou quelles sont les franchises qui ont été revendues et pourquoi?
Est-ce que le franchiseur est obligé de répondre?
Non. Puis s'il ne répond pas, tu prends tes trucs, tes clics, tes claques, puis tu te sauves.
Non, mais il peut mentir aussi.
Ouais, mais tu peux aller valider des points. Ah. Parce que comme acquéreur potentiel d'une franchise, si tu ne vas pas voir d'autres franchisés, puis tu dis, regarde, on m'a dit que tu venais de racheter la franchise, tout, il m'a dit que bon, le franchisé, ça n'avait pas fonctionné. Puis l'acquéreur va te le dire, il ne savait pas trop, tout ça. Ben moi, regarde, voici, je suis rendu là, j'ai fait ça, puis voici comment ça fonctionne. Et ça aussi, mais il faut que tu valides.
C'est la fin de cette première partie. On se retrouve dès demain pour parler franchise, franchisé, franchiseur. Ciao, ciao !